Ah, le libre accès des chiens guides. Vous savez, le fait qu'ils peuvent nous accompagner partout, en guidant leur maître ou avec leur famille d'accueil comme moi, eh bien si c'est inscrit aujourd'hui dans la loi, bien qu'encore difficile dans certains lieux, ça n'a pas toujours été le cas. C'est grâce à l'Association nationale des maîtres de chiens guides qui défend ce libre accès depuis sa création en 1979. Et l'ANM Chien Guide vient justement de lancer son application mobile à télécharger sur tous les stores où je vous encourage à signaler toute difficulté ou refus d'accès, mais surtout à adhérer gratuitement, que vous soyez maître de chien guide ou pas d'ailleurs. Et merci à l'ANM de soutenir mon podcast Futur Chien Guide. Bienvenue sur le podcast Futur Chien Guide, le seul podcast sur l'univers des chiens guides d'aveugles, soutenu cette année à nouveau par la FFAC et l'ANM Chien Guide. Amoureux des chiens, passionnés d'éducation canine, futurs bénéficiaires ou autres curieux comme moi, vous croisez parfois des chiens guides d'aveugles et leurs maîtres en vous demandant comment font-ils pour se déplacer dans nos rues toujours plus agitées. Ce podcast est le seul qui vous propose au fil de rencontres enrichissantes de décrypter l'univers des chiens guides d'aveugles pour comprendre par qui et comment ils sont éduqués, mais aussi de découvrir leur rôle dans le quotidien de leurs maîtres et les bouleversements à leur arrivée. Je m'appelle Estelle et je suis passionnée depuis toujours par les chiens guides d'aveugles et bénévole pour cette cause à Paris depuis des années. Persuadée que l'univers des chiens guides d'aveugles mérite d'être mieux connu, je vous partage dans ce podcast les échanges que j'aurais tout à fait pu avoir en face à face autour d'un verre avec mon invité. Et pour cet épisode un peu spécial, je vous emmène au-delà des frontières françaises, mais aussi de l'univers des chiens guides d'aveugles, puisque je vous présente Ariane et Tumby, sa chienne d'assistance. C'est à sa majorité qu'Ariane exauce enfin son rêve d'avoir Tumby, son premier samoyède et sa race de cœur depuis longtemps. Alors que sa chienne adopte un comportement bizarre, elle découvre finalement qu'elle détecte ses crises. Mais comment sa belle samoyède est-elle finalement devenue son chien d'assistance ? De handler professionnel à réceptionniste en Laponie, Ariane nous raconte son entrée inattendue dans le monde du chien d'assistance, tout en poursuivant ses objectifs d'élevage de samoyène et sa vie pour ses chiens. J'ai d'ailleurs profité d'un séjour en Laponie pour vous partager cet échange, sans pour autant alourdir mes valises de mon imposant micro. Alors le son est différent, mais impossible de passer à côté de cette belle histoire pour autant. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour Ariane.
Bonjour Estelle.
Merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast Futur Chien Guide. Alors déjà, on est un peu dans un contexte particulier, puisqu'on est en dehors des frontières au sens propre, puisqu'on n'est plus en France aujourd'hui. Ensemble, toi et moi, est-ce que, avant que je dévoile tout ça, tu peux te présenter un petit peu ?
Alors, je m'appelle Ariane, j'ai 24 ans, et avec mes trois samoyèdes, on est parti au mois de novembre nous installer en Laponie.
Voilà, donc moi j'en profite. Je suis en Laponie avec toi pendant quelques jours. J'en profite pour prendre quelques petites vacances et puis je me suis dit mais pourquoi pas enregistrer avec toi. Alors avec la petite introduction, on va se dire bah oui mais bon des Samoyèdes, la Laponie, quel est le rapport avec les chiens guides d'aveugles ? Alors on a l'habitude que je fasse en été des petits hors-série sur les chiens d'assistance et je me suis dit mais saviez-vous qu'Ariane est aussi maîtresse d'un chien d'assistance ? Puisque tu vas nous raconter un peu tout ça, comment tu en es venue à avoir ton premier chien qui est Tumby ? D'où elle vient ? Pourquoi elle ? Et c'était pas tout à fait relié, il me semble, au début, à un chien d'assistance.
Absolument. Alors, Tumby, je l'ai eu en 2018. C'est une petite chienne qui a été importée de Russie, que j'ai achetée dans le but de faire de l'élevage en fonction de comment est-ce qu'elle évoluait et des concours parce que moi je suis handler professionnelle donc je sors énormément en concours canin et c'était surtout ce côté-là que je voulais développer. Donc j'ai importé ma petite chienne et tout de suite on a eu une relation assez fusionnelle. Ça faisait 18 ans que j'attendais d'avoir mon premier chien et je me suis rendu compte très rapidement qu'en fait elle réagissait à certaines de mes crises.
Et du coup, ce que tu dis, c'est que, en fait, quand tu dis que tu es handler professionnel, alors c'est pas un terme qu'on utilise beaucoup sur le podcast, tu l'étais déjà ou tu le devenais avec Tumby?
Alors, j'ai commencé dans le monde du handling, donc pour expliquer très rapidement ce que c'est, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas forcément connu du grand public. Mon métier, c'est de gérer toute la préparation physique et mentale des chiens d'expo et de concours pour des particuliers et les emmener à leur place en concours, les présenter au jury sous leur meilleur jour, en essayant de cacher les défauts et mettre en avant les points positifs par rapport aux standards de chaque race que je vais présenter. Donc, je faisais déjà ça avant d'avoir Tumby.
Du coup, tu parles de handling, mais toi, tu faisais ça depuis longtemps. C'est une passion que tu as eue.
Alors, je suis rentrée par hasard dans le monde du chien d'expo et de concours.
De beauté, hein, on parle.
De beauté, exactement. J'ai jamais eu de chien donc, avant d'avoir Tumby, parce que mes parents n'ont jamais voulu que j'aie de chien. Mm-hmm. Et via l'intermédiaire de ma meilleure amie, qui est propriétaire de Samoyed et également éleveuse de Samoyed, je suis tombée un jour par hasard dans le monde des expositions de beauté pour chiens. Et ça a été une passion qui est née presque instantanément. Okay. Donc avec Tumby, quand je l'ai eu, je me suis dit que c'était l'occasion pour moi d'apprendre encore plus et de développer mon activité professionnelle là-dedans.
Donc en fait, quand tu as eu Tumby, tu sortais pas forcément que des Samoyèdes en concours?
Pas du tout de Samoyèdes, à part les Samoyèdes de ma meilleure amie, parce que bah c'était les seules Samoyèdes que je côtoyais au quotidien, non, parce qu'elle habite à 400 km de là où j'habitais à l'époque, mais les seules Samoyèdes dont je pouvais vraiment m'occuper. Et...
Donc, gros coup de cœur pour le Samoyed.
Depuis toujours, depuis 10, 15 ans maintenant.
Ouais, et Tumby est arrivé de Russie.
Tumby est arrivé de Russie, alors pas du tout pour l'assistance. Et ouais. Alors moi, je souffre de plusieurs pathologies différentes et j'ai commencé à me rendre compte qu'elle réagissait à mes crises convulsives non épileptiques en les sentant venir vraiment juste 2 minutes avant. Mmh. Elle devenait complètement folle. Au début, j'ai pas forcément fait le lien entre mes crises et... les réactions de Tumby, je pensais juste qu'il y avait quelque chose qui allait pas au niveau de son comportement. Plus les semaines sont passées, j'ai commencé à me dire qu'il y avait un problème avec elle. J'y suis allée voir un éducateur canin. À ce moment-là, je vivais en Allemagne. Mmh. Et c'est cet éducateur-là qui m'a dit, mais en fait, je pense que les réactions du chien sont liées à vos problèmes de santé. Si vous relevez à chaque fois quand est-ce que ça arrive, c'est vraiment juste avant les crises. Et donc, j'ai commencé à me dire, ah bah, ça peut effectivement être ça. Et il m'a poussée à me renseigner sur la possibilité de la former parce que lui, il connaissait en fait tout ce qui était milieu du chien d'assistance. Moi, c'est un milieu que je connaissais pas du tout. Ouais. C'est-à-dire qu'à part les chiens guides de Paris que je voyais quand je vivais à Paris, un chien d'assistance pour moi, c'était uniquement ça.
Ouais.
Et j'ai contacté plusieurs associations en Allemagne qui m'ont clairement dit non. Parce que c'est pas du tout une race de chien qu'on a l'habitude de voir en formation, parce que c'est un chien nordique, primitif, qui va pas forcément être facile, et on a un taux d'échec qui est plutôt très élevé. Donc toutes les portes des associations en Allemagne m'ont été un peu claquées au nez, et donc j'ai totalement laissé tomber cette idée de former ma chienne, puis j'ai déménagé en Hollande pour aller vivre un peu loin de tout le monde, sur une petite île, parce que
T'en avais besoin.
J'en avais besoin. Avec mes problèmes de santé me rendaient la vie vraiment très difficile et le fait de vivre en ville, c'était plus possible. Et en Hollande, je suis tombée sur un husky en formation de chien d'assistance. Et là, je me suis dit, mais
c'est possible.
Un husky, c'est plus difficile au niveau du caractère qu'un samoyède. Donc, si le husky peut être formé, pourquoi est-ce que mon samoyède ne pourrait pas? Je suis rentrée en contact avec la bénéficiaire de ce chien-là qui le formait elle-même en owner training. Encore une fois, quelque chose que je connaissais pas du tout. Je lui ai demandé des informations, on a pas mal échangé et elle m'a proposé de me mettre en contact avec son association à elle.
Pour faire un petit point de vocabulaire, donc handling, ça c'est bon, handler, on a compris. Owner training, c'est vrai que c'est un terme que j'emploie pas sur le podcast. Parce qu'on est principalement, en tout cas pour l'instant, dans les 55 premiers épisodes, sur des chiens qui sont formés par les associations eux-mêmes et qui sont ensuite remis aux bénéficiaires. Et le owner training, ou la formation par le bénéficiaire, on pourrait l'expliquer comme ça, c'est justement le principe d'avoir son chien choisi ou non en lien avec l'association, hein, parce qu'en France, certaines associations accompagnent dès le choix du chiot pour que ce soit un chiot qui soit certes éduqué par le bénéficiaire, mais pas n'importe quel chien non plus, puisqu'il y a quand même des compétences, comme tu le dis, que tu as découvertes en tout cas chez Tumby. Et là, ce husky avait été formé par ses bénéficiaires, et toi, l'objectif, c'était de tirer parti des compétences que tu avais vues innées du coup chez Tumby, et de te dire, bah voilà, est-ce qu'elle pourrait pas venir ma chaîne d'assistance? C'est vraiment ça. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur tes troupes? Parce que du coup, ils sont quand même catégorisés. Et donc, c'est aussi ça qui te permet de bénéficier d'un chien d'assistance. Puisque on parle pas souvent de ça. Parce que pour les chiens guides d'aveugle, sur lesquels on parle principalement sur le podcast, il y a une pathologie visuelle qui est associée et qui est en général certifiée par les ophtalmologues. Côté assistance, on a parlé déjà des chiens de soutien émotionnel, avec les spectrocystiques, etc. Des chiens d'épilepsie. Et là, dans ton cadre, ça a été aussi diagnostiqué. Et donc, c'est pour ça aussi que tu peux prétendre, c'est quelque chose qui est encadré aussi.
Absolument. Donc, dans le cas de Tumby, c'est un chien d'assistance psychiatrique.
Ok.
Je souffre notamment de troubles du déficit de l'attention et de syndrome de stress post-traumatique. Et mes crises convulsives non épileptiques sont liées à mon syndrome de stress post-traumatique. Donc, c'est quelque chose, voilà, j'ai été suivie pendant très longtemps par un psychiatre qui m'a diagnostiqué ces problèmes-là.
La légitimité d'avoir un chien d'assistance, voilà. Mais c'est vrai que ça, j'en parle pas mal dans mes hors-séries, et au final,
le handicap invisible, puisque c'est ça dont on parle. C'est vrai que, voilà, mais même sur les chaînes guides des voix, hein, ouais. Moi j'ai des... Je pense à Chloé. Chloé, elle voit pas très bien, mais ses yeux sont visuellement, quand on la regarde, on ne voit pas du tout qu'elle est déficiente visuelle. Et derrière, du coup, souvent les gens lui demandent si elle est famille d'accueil, et elle me disait dans l'épisode 49 justement que ah non, en fait, c'est mon chien guide. Donc c'est vrai que moi, la première fois que je l'ai rencontrée, c'est un peu comme ça. Sa poquette, elle est là, et tu te dis ok, c'est un grand berger allemand, poquette. Qu'est-ce qu'elle fait là, la forme, etc. Pour revenir un petit peu sur sa certification à Tombi, donc t'as contacté cette association. Voilà. Qui avait formé le ski que tu croisais souvent.
Tout à fait. Via la,
via la bénéficiaire.
La bénéficiaire du ski. Au début, simplement pour prendre des informations, savoir, avoir leur avis, en fait, par rapport aux différentes races, à faire rentrer en formation, comment ça se faisait que eux, avaient accepté de prendre un ski en formation, alors que 90% des associations que j'avais pu contacter précédemment m'avaient tous dit, non, enfin, c'est hors de question parce que c'est des races dont les taux d'échec sont plutôt très élevés. Et après plusieurs semaines d'échanges avec l'association, on a décidé de se rencontrer parce que moi je suis sur une île et eux ils sont en Hollande, pas sur, enfin sur dans le pays. On a décidé de se rencontrer à Amsterdam autour d'un café avec une représentante de l'association pour discuter. On a décidé au terme de cette rencontre qui a duré quand même 3 heures où on a pas mal parlé de tout mon cheminement du côté médical et à quel point. Comment est-ce que Tombi m'aidait déjà au quotidien sans être chienne d'assistance?
Sans être formée,
qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'elle puisse vraiment encore plus m'aider? Enfin, comment est-ce qu'on pourrait prendre ces alertes naturelles, entre gros guillemets, et les shaper pour qu'elle puisse apprendre à alerter correctement et à répondre à ces crises que je pouvais faire? Et on a décidé de rentrer, de faire rentrer Tombi en formation. Formation qui, normalement, aurait dû durer 2 ans. Et moins d'un an et demi après être rentrée en formation, on a décidé avec, ma monitrice de l'association de passer ma certification parce qu'au final, ça s'est passé vraiment super bien et très rapidement. Donc, elle a été certifiée au bout d'un an et demi. Je sais pas comment ça se passe en France, pour les certifications des associations françaises, parce que c'est vrai que de ce que j'en entends en parlant avec des amis qui ont des chiens d'assistance en France, à part tout ce qui est école chien guide, je sais que c'est beaucoup plus réglementé, cadré.
Bah, c'est vrai que le monde du chien d'assistance est encore, en fait, il est très diversifié parce que quand on parle de chien guide, en fait, c'est le guidage d'une personne déficiente visuelle. Je dis pas que c'est simple, mais ça paraît assez homogène. Les besoins de guidage entre différents déficients visuels, en tout cas. Et du coup, la formation, c'est vrai que la certification, elle a aussi été homogénéisée grâce à la Fédération française des écoles de chiens guides. Les associations qui sont en dehors de cette fédération peuvent certifier autrement, c'est un petit peu différent. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est très cadré et ça l'est du côté de la fédération et des écoles fédérées, qui représentent quand même la majorité aujourd'hui des chiens guides. Du côté des chiens d'assistance, bah déjà, ils sont pas tous certifiés pour les mêmes choses. Donc, il faudrait une certification par type de chien d'assistance, par trouble, en fait. Alors, c'est vrai qu'il y a des certifications qui sont... il y a toujours une grande part de socialisation. Enfin, on va en parler, mais Tombi, tu l'emmènes partout et elle se tient partout. T'as un dossard aussi où il y a marqué « chien d'assistance »,« ne pas toucher », etc. Parce que elle va partout avec toi, dans les magasins, dans les transports, tous ces lieux où les chiens normaux, non assistance, ne sont pas permis. Elle peut y accéder tout à fait. Après, c'est vrai que la catégorisation et la certification... Elle dépend vraiment aussi des types de chiens d'assistance. Quand tu as un chien qui prédit les crises d'épilepsie ou le diabète, ça va pas être la même chose. On va pas leur demander la même chose. On va pas leur demander à ramasser un objet si leur job c'est de prédire toutes ces crises-là. Donc là, l'idée avec Tombi, c'est que vous avez cadré, vous lui avez vraiment appris une méthode Elpoc, non? Elle fait quoi?
Elpoc, où elle va venir me lâcher les mains si vraiment moi je réagis pas parce que je fais également je dissocie.
En fait, quand elle te lèche et que tu réponds pas.
Oui. En fait, elle va commencer par me lécher les mains. Si je réagis pas, elle va commencer à me poquer. Et si je réagis pas, là, par contre, je lui ai appris à me prendre les mains et à me mordiller en fait les mains pour vraiment essayer de me faire réagir. Elle va aussi me pousser à justement m'asseoir ou me
coucher.
Me coucher. Me mettre en sécurité. Elle fait également de l'alerte au cortisol, pour prévenir tout ce qui va être crise de panique, etc.
Donc pareil, elle te poque.
Donc oui, pareil, elle va poquer. Elle fait également du guidage léger, parce que à l'heure actuelle, j'en ai plus forcément besoin. Mais c'est vrai que comme je vivais à Paris, j'étais très facilement surstimulée par la lumière, le bruit, les odeurs, donc je pouvais vraiment me sentir.
sentir un peu agressé par tout ces, par l'ambiance.
Et perdre un peu mes repères. Donc, par moment, en fait, le fait qu'elle puisse faire du guidage léger, ça me permettait de pouvoir me reposer sur elle et savoir qu'elle allait pouvoir m'emmener dans un endroit en sécurité, qu'on puisse se poser, se calmer,
reprendre un peu
des émotions. Et puis voilà. Principalement, ce qu'elle fait, elle, au quotidien. Va aussi me rappeler mes prises de médicaments.
Ouais.
Parce que, en fait, j'ai renforcé mon horaire de prise de médicaments avec ses horaires de repas à elle. Donc, elle m'alerte pour mes médicaments parce qu'elle sait que derrière, il y a la gamelle qui va arriver. Et ça me permet, moi, de pas oublier, en fait, de prendre mes médicaments parce qu'avec mes troubles du déficit de l'attention, c'est quelque chose que, mes traitements, ça m'arrive très souvent de s'oublier.
Alors qu'avec Tommy qui demande la gamelle, les traitements pour la gamelle, ça marche.
Oui.
Et du coup, tout ça, donc finalement, elle n'a pas été certifiée en France parce qu'elle n'avait pas forcément besoin. La certification que tu avais eue aux Pays-Bas suffisait. Entre-temps, tu es rentrée en France, tu es repartie en Italie, tu as fait quand même pas mal de choses avant d'arriver en Laponie. Mais il y a aussi tout un côté que tu as développé qui fait grandement partie de ta vie, c'est le côté élevage.
Absolument.
Tommy a fait une première portée avec Tinky, qu'on connaît, qu'on voit de temps en temps sur mon Instagram. Tu as eu aussi une deuxième portée avec Totoro. Tout ça, pareil, tu l'as développé un peu à côté. Ton objectif, c'est de faire un peu des chiens de concours ou c'est de faire des chiens de famille ?
Alors, mon objectif à moi, c'est de faire un chien de famille qui se rapproche au plus du standard de la race. Donc, parce que voilà, c'est ma race de cœur et j'aimerais vraiment la préserver, la tirer vers le haut. Mais je veux également que ma race de cœur donc soit préservée et que les chiens que je produise continuent à travailler, donc faire du traîneau. Pourquoi pas faire de l'assistance ? J'ai eu plusieurs demandes de familles qui m'ont demandé un chiot pour l'assistance parce que c'est une race qui leur plairait bien, mais c'est difficile de trouver des lignées où au niveau du caractère, on ait quelque chose qui puisse être bien exploité pour ne pas avoir un taux d'échec trop élevé derrière.
Oui.
C'est vrai que Tumbi, je vois bien sur ces chiots que autant au niveau de la conformation, donc de la beauté, entre gros guillemets, par rapport au standard de la race, on est sur quelque chose qui me plaît vraiment et je suis vraiment très satisfaite de ce qui en ressort. Au niveau du travail, aucun problème. Donc, je me suis laissée deux portées pour moi pouvoir voir le caractère des chiots, voir l'évolution, voir comment ça se passait au niveau des familles avant de me dire pourquoi pas placer un chiot vraiment pour l'assistance. Mmh. Sur les deux premières portées, j'ai placé des chiots pour soutien émotionnel. Donc, encore une fois, entre très gros guillemets, parce qu'en France, soutien émotionnel, ça ne veut pas dire grand-chose, c'est pas reconnu. Mais c'est des chiots qui vivent aux États-Unis où là-bas vraiment
c'est beaucoup plus que cadré aussi.
Et là j'ai une demande donc pour vraiment un chien d'assistance pour de l'alerte au diabète. Et pourquoi pas, on va voir ce que ça va donner si on a des chiots sur les prochaines portées qui correspondent ou pas. Mais oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien continuer développer.
J'allais te poser la question de toute façon parce que là sur les deux premières portées, la première portée il y avait 8 chiots.
Première portée 8 chiots, deuxième portée 10 chiots mais 9 vivants uniquement.
Ouais. Et du coup, tous ces chiens aujourd'hui, ils sont un peu répartis dans le monde, j'ai envie de dire. Que toi, tu es un peu international, mais les chiots le sont plus que toi. Ils couvrent pas mal de pays quand même. Tu as aussi des contrats, je voulais en parler parce que c'est un aspect qui est assez intéressant, je trouve, à préciser. Tu as aussi des contrats que tu appelles contrats éleveurs, où là, en fait, c'est des chiens que tu as placés, enfin qui ont été adoptés sous un contrat éleveur, qui est un contrat où tu y restes un peu propriétaire, c'est ça ?
Tout à fait. C'est des chiens que j'aimerais garder dans mon programme d'élevage parce que au niveau conformation ou au niveau tempérament, c'est exactement ce que moi j'aimerais continuer à garder sur mes lignées. Malheureusement, j'essaie vraiment de garder le nombre de chiens que j'ai à la maison le plus bas possible parce que je pars du principe que quand on a 3 chiens ou quand on en a 15, on peut pas s'en occuper de la même manière et que je veux vraiment avoir le temps de gérer tous les chiens que j'ai correctement, leur accorder assez de temps à chacun. Donc ces chiots-là que je place en contrat d'élevage, c'est des chiots dont je reste propriétaire, qui continuent à faire partie de mon programme d'élevage, donc qui vont reproduire chez moi à la maison, une portée en général. Et ensuite, après cette portée-là, la propriété passe entièrement à la famille avec...
laquelle t'as contractualisé.
Absolument. Et ça me permet donc de pouvoir continuer à produire des chiots, pouvoir offrir à mes reproducteurs une vraie vie de famille, où ils vont avoir toute l'attention dont ils ont besoin, parce que ils vont avoir un seul chien à la maison à gérer, alors que par exemple avec moi, ils seraient 5 ou 6. Bon, là, j'en ai que 3. Mais j'essaie de voir plus loin dans le temps et je me dis que quand j'aurai 5, 6 chiens, si j'avais gardé tous les chiens que j'aurais voulu garder pour la repro, je pourrais humainement pas leur donner le temps et l'attention dont ils ont besoin.
Oui, c'est des chiens que tu veux garder un peu sous ta proximité immédiate pour justement pouvoir en servir pour la reproduction, dans l'objectif de toujours faire évoluer dans le bon sens les standards de la race, en
Absolument.
Fait. Ok, et donc là, aujourd'hui, tu as combien de chiens en contrat éleveur?
Alors aujourd'hui, j'ai un mâle et une femelle en contrat d'élevage, donc en plus de Tinky et Totoro que j'ai gardé, et Tumbi qui est la maman de tous ces petits.
Oui, parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas te retrouver à avoir un élevage avec beaucoup de chiens et pas offrir le même temps. Déjà, là, avec les trois, je pense que je le vois au quotidien en ce moment, vu qu'on partage un peu les quelques jours. Ça fait déjà beaucoup. D'ailleurs, comment tu as décidé de garder Tinky? Comment tu as décidé de garder Totoro? Est-ce que c'était évident? Est-ce que tu savais que tu allais en garder? Ou au final, tu t'es fait avoir par leur bouille, on va dire?
Alors, c'était pas du tout prévu.
Parce que quand on s'est rencontrés la première fois, oui, c'était à l'occasion de la première portée de Tumbi. Et les chiots étaient tout petits, je pense qu'ils avaient 2 mois, oui, qu'on avait fait la sortie poussette.
Alors en fait, quand j'ai fait la première portée de Tumbi, pour moi, alors j'ai tellement une relation fusionnelle avec Tumbi que c'était vraiment compliqué pour moi de me dire « je vais avoir un deuxième chien, je vais en garder un sur la portée ou je vais en garder deux ou... ». Parce que j'avais vraiment peur de pas être capable de m'attacher à un deuxième chien et de pas être capable d'avoir assez d'amour pour en donner à plus d'un chien. Et en fait, je me suis rendu compte, en ayant 8 chiots à la maison, que tous mes chiots, ben, je les aimais exactement pareil. Bon, je les aimais pas de la même manière que j'aimais Tumbi, mais je les aimais tout autant. Mm-hmm. Toi qui es maman, pour le moment, t'en as qu'un seul. Mais je pense que les mamans, c'est pareil. Elles aiment tous leurs enfants aussi fort les uns que les autres, mais elles les aiment pas tous de la même manière, et c'est normal. Et ça, du coup, je l'ai appris en ayant 8 chiots à la maison. Et je me suis dit, ben, en fait, peut-être que je suis capable d'aimer plus qu'un chien. Et d'un autre côté, le fait d'avoir un deuxième chien, si jamais un jour il venait à arriver quelque chose à Tumbi, il me resterait un bout d'aile auquel je pourrais moi me raccrocher. Parce que c'est tellement fusionnel que j'avais vraiment peur de moi, comment est-ce que je vivrais
sans Tumbi.
Et c'est pas très sain d'ailleurs, c'est un peu malsain d'être autant psychologiquement attaché à un animal parce qu'on sait qu'ils vivent pas très longtemps.
Et on peut souligner que Tumbi vient de mettre sa tête sur ta cuisse alors qu'il vient de dire ça. Je fais la description, l'audio description en tout cas.
Donc oui, c'est pour ça que j'ai gardé Tinky, parce que je voulais pouvoir garder un bout de Tumbi au cas où il se passe quoi que ce soit, pouvoir me raccrocher à quelque chose. Et ensuite, ma deuxième portée, j'étais décidée à ne pas garder de chiot parce que je me voyais déjà avec mes 2 chiens, que c'était assez. J'ai toujours dit, j'ai 2 mains pour 2 chiens.
Ouais.
Et on s'arrête là. Et en fait, ça a été un énorme coup de cœur sur Totoro, mais vraiment dès la naissance, quelque chose qui s'explique pas. Donc moi, je choisis jamais un chiot avant 8 semaines parce que je veux vraiment voir le caractère du chien, être sûr que le caractère me correspond, et également au niveau conformité au standard, si physiquement il évolue bien comme j'ai envie de le voir évoluer. Donc j'ai attendu les 8 semaines, avec toujours cette petite idée en tête que Totoro était quand même extrêmement mignon. Je l'ai appelé Totoro, il me semble, à 6 semaines, en me disant toujours « Non, mais de toute façon, je le garderai pas. » J'ai toujours dit « deux chiens, c'est pas possible. » Arrivé à 8 semaines, au niveau du caractère, c'était vraiment tout ce que j'aimais. C'était un coup de cœur qui se confirmait. Je me suis encore laissé le temps. On arrivait à 12 semaines, je me suis dit, bon, on écoute le cœur ou la raison, je sais pas. Et au final, je me suis dit que la vie est trop courte, que s'il y a eu ce coup de cœur-là inexpliqué dès tout petit, c'est que peut-être qu'il fallait que j'écoute mon cœur et pas forcément ma raison, et j'ai fini par le garder lui. Aujourd'hui, parfois, je me dis que 3 chiens, c'était pas la meilleure des idées parce que c'est quand même pas mal de boulot. Mais je regrette pas une seule seconde de l'avoir gardé.
Et puis, il est plutôt petit maintenant.
Hein. Il est plus tout petit.
Il est plus grand que Tumbi et que Tinky, d'ailleurs. On le voit sur les photos. J'en mettrai pas mal des photos sur futureshowguide.fr. Mais c'est vrai qu'au final, aujourd'hui, t'as 3 chiens. Et puis, on parlait d'international parce que t'étais en Italie pendant 4-6 mois. Là, tu débarques en Laponie, donc ça veut dire aussi voyager. C'est quelque chose qui n'est pas nouveau pour toi de voyager. Mais avec 3 chiens, ça devient une petite organisation quand même. On parlait des délais de commandes au plus en Suède, VS la France, ce genre de choses. Aujourd'hui, quelle est la place de Tumbi dans son rôle de chien d'assistance, par exemple?
Alors aujourd'hui, en toute honnêteté, j'ai plus autant besoin d'elle au quotidien pour l'assistance que quand, par exemple, je vivais à Paris. Tout simplement parce que je vis dans un environnement où c'est beaucoup plus facile pour moi de gérer tout ce qui est lié à mon syndrome de stress post-traumatique et à mon TDAH.
TDAH.
Trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Donc c'est vrai que la proximité avec la nature que j'ai ici en Laponie par rapport à l'hyperactivité, c'est plutôt sympathique parce que dès que je sens que c'est un petit peu trop, ben je prends mes chiens et on part 4 heures en balade.
Ça te permet de redescendre.
Voilà, ça me permet de redescendre. J'ai plus tout ce qui est stress du quotidien de quand je vivais en plein centre-ville de Paris. J'ai plus tout ce qui va être surstimulation due au bruit, aux odeurs, au nombre de personnes que j'ai autour de moi. Aujourd'hui, je fais un boulot que jamais de ma vie je me serais cru capable de faire. Je travaille en réception dans un hôtel, donc le contact avec la clientèle. C'est vrai que ce déménagement à Laponie, ça a changé vraiment pas mal de choses pour moi. Ça m'a apaisé sur le plan psychologique, et je pense que ça m'a aidé en fait aussi au niveau de la santé à aller mieux. Donc j'ai plus autant besoin de Tumbi qu'avant, mais elle continue à énormément m'aider à la maison. Il y a des jours forcément avec et des jours sans. Donc les jours sans, j'ai plus besoin d'elle.
Par contre, du coup, tu continues à la prendre régulièrement dans les centres commerciaux, c'est un grand mot vu ce qu'il y a ici.
À la supérette
du coin. Non, ce que je veux dire, c'est qu'elle a toujours son statut d'assistance.
C'est vrai qu'en arrivant en Laponie, quand j'ai vu, moi, mon état s'améliorer, je me suis même questionnée sur le fait de la mettre en retraite parce que je me sentais plus vraiment légitime à avoir un chat d'assistance parce que je me sentais beaucoup mieux. Voilà, comme je disais, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et quand je me sens bien, j'essaie de profiter de cette nouvelle liberté en fait que je découvre au quotidien parce que c'est quelque chose auquel j'étais pas du tout habituée. Et les jours où ça va moins bien, Tumbi m'accompagne et
Elle est là aussi pour ça, et ça me rappelle, on avait discuté cet été avec Thibaut qui a Olaf, alors un ancien élève chien guide qui est devenu chien d'épilepsie, chien d'assistance, donc qui détecte ses crises, et qui me disait Thibaut dans l'épisode 47 que depuis l'arrivée d'Olaf, en fait, il faisait beaucoup moins de crises d'épilepsie. Au final, aujourd'hui, alors il s'entraîne toujours pour que s'il y en a une qui arrive un jour, il puisse être au taquet, mais qu'en fait, aujourd'hui, il en détectait plus parce que Thibaut n'en faisait plus. Mais c'est aussi une manière d'accompagner, parce que ça se trouve, Tumbi, demain, perd ce rôle d'assistance-là, où tu te dis, je pars pas en vacances avec elle ou je sais pas quoi. Peut-être que
ça rechute
et elle fait partie de ton équilibre émotionnel et psychique.
Absolument.
Donc, c'est très similaire à ce que me racontait Thibaut en me disant, en fait, depuis qu'Olaf est là, on pourrait se dire que maintenant, Olaf est inutile et en fait, c'est par sa présence qu'il est utile et c'est pas forcément...
Parce qu'il fait...
C'est pas forcément parce qu'il a, il est allé chercher la trousse à la pharmacie pour l'épilepsie particulièrement. C'est juste parce que il est là et ça permet de rassurer. Et c'est bien aussi. De toute façon, on va pas retirer les chiens. Si la situation change, c'est les chiens sont pas retirés de toute façon. T'as quand même débarqué avec 3 chiens en Laponie ?
J'ai débarqué avec 3 chiens en Laponie. J'ai commencé à voyager vraiment... Alors, j'ai toujours voyagé avec ma famille parce que on faisait toujours de très grands road trips. Mais une fois que je suis partie de chez mes parents à 18 ans et que j'ai du coup adopté Tumbi, c'est la première chose que j'ai fait quand mes parents... quand je suis partie de chez eux. Je me suis dit que... Alors, mon chien n'avait que 15 ans, dans le meilleur des cas, à vivre et que je voulais qu'il voit un maximum le monde. Et j'ai commencé à voyager, donc en l'espace de... 5 ans maintenant, j'ai vécu dans 7 pays différents, 6 pays différents.
Oh, t'as aussi la langue qui va bien, je crois que tu en parles 7 aussi.
Oui, absolument. Et du coup, j'ai vraiment commencé à voyager avec Tumbi et pour Tumbi.
Oui.
Et c'est pour mes chiens que je suis venue en Laponie parce que je me suis dit que c'était... Alors, au-delà d'avoir toujours rêvé de visiter la Laponie, de voir les aurores boréales, c'est en me disant qu'en fait, c'est leur environnement à eux. La neige, le froid, les moins 30 degrés. Bon, pas en ce moment.
Oui, mais en hiver, ça descend jusqu'à moins 30.
Voilà, ça peut descendre jusqu'à moins 30. Et je me suis dit qu'ils seraient trop, trop, trop heureux ici. Et c'est leur bonheur à eux qui fait le mien. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire mes valises sur un coup de tête. C'est une décision que j'ai prise en 5 jours. De tout plaquer derrière moi et de quitter les 45 degrés de l'Italie pour les moins 30 de la Laponie.
choc de température.
Voilà.
Bon, après, t'es pas passé de 45 à moins 30 le jour au lendemain. T'as fait un petit stop en France, on s'était croisés. Et puis, il faisait pas moins 30, je crois, à ton arrivée. Pas encore,
non.
En tout cas.
Non, il faisait encore assez bon. Il faisait moins 5. Mais c'est vrai que mon corps s'était habitué aux 45 degrés de l'Italie. Donc, les moins 5 de quand je suis arrivée, en fait, j'avais extrêmement froid. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand il fait moins 20, parfois, je sors en jogging et J'ai un peu froid, mais c'est plus rien. Enfin,
Après, c'est pas le même froid qu'en France. Hein. C'est un froid sec.
Oui.
On n'a pas le froid humide qu'on connaît avec la pluie et tout. C'est pas la même chose, du coup. Et dans tes projets, on se parle la semaine même de la sortie du podcast. Hein, toujours team dernière minute.
Toujours.
Tu pars à la fin du mois, je crois.
Je pars à la fin du mois pour... Alors, je quitte ma petite Laponie bien-aimée pour rentrer en France pour le Salon international de l'agriculture auquel Tumbi a été qualifié en remportant la nationale d'élevage du Samoyed au mois d'octobre dernier, si je ne me trompe pas. Son fils également, Soren, donc qui est un des chiens que j'ai placé en contrat d'élevage, qui vit en Haute-Savoie, a également été qualifié. Donc, on y va avec sa propriétaire, Soren, Tumbi, et on va représenter mon élevage...
Je crois que c'est le jeudi, c'est ça?
Le jeudi 2 mars.
Bon, c'est le jeudi du Salon de l'agriculture, il n'y en a qu'un seul. Alors, si vous voulez voir l'essai moyen d'Ariane et Ariane, c'est là-bas. Moi, je passerai aussi, bien sûr, le jeudi, c'est prévu. Et puis alors, tu parlais d'autres portées, une troisième portée?
Absolument, j'ai une troisième portée de prévue.
Toujours du côté de Tumbi?
Alors, j'ai une portée de prévue pour Tumbi, une prévue pour Tinky. Maintenant, ça va être en fonction de où est-ce qu'on est quand les chaleurs arrivent et de qui aura ces chaleurs en premier. Donc, je pense que ce sera juste une portée cette année et l'autre fera l'année suivante. Je ne saurais pas exactement me prononcer là-dessus. J'aime prendre un peu des initiatives un peu à la dernière minute. Donc, on va voir comment est-ce que ça va se goupiller. Mais une troisième portée de prévue pour ce printemps. Si tout se passe bien et que...
Toujours en Laponie?
Alors...
T'as le droit au joker.
Alors, je vais pas me prononcer là-dessus, mais il est possible que je reste plus longtemps que...
Une saison.
Voilà, plus longtemps qu'une saison en Laponie. Donc, la naissance en France ou en Laponie, je ne sais pas encore.
Bon, en pleine réflexion en tout cas.
Oui.
Il va falloir suivre les aventures, hein. Parmi tous ces projets, parmi toute cette aventure, donc tu as fait un bout de chemin et tu fais encore un bout de chemin du côté des chiens d'assistance. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as découvert ou que tu as appris en plongeant en fait dans le monde du chien d'assistance avec Tumbi, alors que tu n'avais pas forcément prévu d'y aller
Quelque chose que j'ai découvert avec Tumbi en rentrant dans le monde du chien d'assistance et auquel je ne m'attendais pas du tout, c'est que ça a été beaucoup plus difficile psychologiquement pour moi en fait d'avoir un chien d'assistance que je pensais, parce que ça rendait mon handicap invisible visible. Et je l'ai très très mal vécu au tout début parce que ben justement ça le rendait visible et donc les gens me voyaient avec Tumbi, voyaient son dossard et donc savaient que j'avais un handicap. C'est quelque chose que je pouvais cacher très facilement, enfin, qu'on peut cacher très facilement,
oui.
Qui se voit pas quand on n'a pas de chien d'assistance, alors que le chien d'assistance le rend très visible. Oui, j'ai eu beaucoup de mal avec ça. Et je pensais pas du tout que je le vivrais aussi mal.
Une sorte de coming out du handicap,
C'est ça, en fait, auprès des proches, auprès de la famille qui n'est pas forcément au courant et qui, du coup, remet en question la légitimité du fait d'avoir un chien d'assistance parce qu'ils se rendent pas compte de ce que c'est que de vivre, en fait, avec ce genre de handicap invisible. Pour eux, c'est juste pour faire son intéressant qu'on a un chien d'assistance. Pour eux, c'est uniquement pour les personnes déficientes visuelles qu'on utilise un chien
guide.
Voilà, un chien guide. Donc, ça a été très compliqué de ce côté-là, mais également le fait de me retrouver confrontée à parfois des refus d'accès et pas savoir comment gérer, en fait, parce que avec toutes les émotions qui se mêlent, on a donc cette montée de stress qui fait que parfois on peut se sentir nous-mêmes, en fait, même plus légitime. On se dit oui, mais c'est vrai que c'est pas un chien guide, mais en fait, on s'en fiche. C'est un chien d'assistance et aux yeux de la loi, c'est tout ce qui compte. Chien d'assistance ou chien guide, c'est pareil. Et c'est vrai que parfois, j'ai des refus. Enfin, plus à l'heure actuelle, j'arrive surtout, en fait, à tenir tête aux personnes. Et à l'heure actuelle, j'arrive à faire respecter mes droits. Si je me retrouve face à un refus d'accès, je vais savoir répondre à la personne et lui dire qu'en fait, non. Lui présenter les textes de loi qui lui expliquent, en fait, que, peu importe chien d'assistance ou chien guide, il n'y a pas de différence à faire. Alors que deux ans en arrière, c'est quelque chose qui était impossible pour moi. Je me suis retrouvée avec un refus d'accès dans un bus. J'ai pas su gérer émotionnellement. Je suis juste descendue du bus et j'ai dit d'accord. Parce que j'osais pas, en fait, tenir tête aux personnes en face. Je pense que c'est quelque chose qui vient avec le temps. On en arrive à un point où on en a marre, en fait, de se faire...
Refouler.
Et en fait, d'avoir nos droits qui sont pas respectés. Enfin, je pense. En tout cas, moi, c'est mon point de vue et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ça a été un trop-plein de... J'en ai marre. C'est pas une vie que de juste accepter tout ça.
Oui, c'est ce que tu disais sur la visibilité des handicaps invisibles. Tu parles des chiens d'assistance, mais Moi, je sais qu'on en parlait aussi du côté des chiens guides, hein, quelques-uns de mes invités. La déficience visuelle, elle peut être connue dans l'entourage. Mais en fait, en effet, en se dotant d'un chien d'assistance, il y a une carte qu'on oublie un peu, c'est que du coup, ben, on met un peu la carte handicap sur la table, mais auprès de tout le monde. C'est-à-dire qu'on choisit pas, ah ben lui, je lui dis, lui, je lui dis pas, ce que tu peux faire à l'oral et sur des handicaps plus ou moins visibles. Et je sais aussi que y a certains de mes invités ne prenaient pas la canne pour justement ne pas être vu comme un aveugle avec sa canne, enfin, ou un déficient visuel avec la canne. Et que là, bah, de par le chien, certains qui n'avaient pas la canne avant, alors ont quand même fait une formation en locomotion, parce qu'il faut avoir la canne avant d'avoir un chien guide. Oui. Il faut savoir se gérer dans ses déplacements et apprendre tout ça. Mais ça expose, en fait, ton handicap au grand jour. C'est plus quelque chose de caché, quoi. Exactement. Et tu l'exposes à tout le monde. Et en plus, t'es obligé de l'expliquer à tout le monde en disant, bah non, en fait, c'est mon chien d'assistance parce que. Alors, tu vas pas dire tout est trouble, etc. Ouais. Mais t'es obligé de dire, en fait, et de le dire à voix haute aux gens, bah, sorry, mais en fait, tu le sais pas, mais j'en ai besoin. Et t'as plein de questions, mais en fait, je veux pas t'y répondre parce que c'est pas tes affaires, c'est pas ton business et ça te regarde pas. Et c'est compliqué pour les gens de comprendre ça. Et c'est vrai que quand je fais mes écarts du côté des chiens d'assistance et encore aujourd'hui, quand je le fais sur les hors-séries de l'été, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'en fait, le chien guide, on le voit tout de suite, enfin, on l'imagine tout de suite avec une personne qui est aveugle complète. Alors déjà, il y a plein de choses à découvrir sur cet univers-là. Je pense que depuis 50 épisodes, les auditeurs fidèles ont bien remarqué. Mais du côté des chiens d'assistance, j'ai envie de dire, la diversité, comme on le disait tout à l'heure, est encore plus grande. Et des fois, tu peux te dire, bah, pourquoi il en aurait besoin, etc. Et c'est des besoins ponctuels, mais qui font que tu dois toujours l'avoir. Et c'est pas que quelqu'un qui est en fauteuil roulant. Parce que souvent, bah, malheureusement, quand on parle de handicap, on voit un fauteuil roulant, une canne. Après, c'est difficile d'imaginer si quelqu'un est sourd ou pas, à part si on le voit signer. Si quelqu'un a des troubles autres, c'est compliqué, quoi.
Absolument.
Je sais pas s'il faut assumer, enfin, ça, c'est toi qui vas me répondre. Est-ce qu'il faut assumer avant de demander son chien d'assistance? Ou est-ce qu'il faut être prêt à l'assumer une fois qu'on a son chien d'assistance? Je pense que...
C'est la deuxième réponse parce que, bon, ne pas l'assumer libre à chacun. Et je pense qu'au niveau même du caractère de chaque personne, c'est très différent pour chacun.
Oui, je parlais avant de faire la demande.
Oui, avant de faire la demande, ouais. Oui, ok. Mais c'est vrai que, voilà, en fait, il faut être prêt, je pense, mentalement à assumer tout ce qui va se passer derrière, le fait que ça va devenir visible aux yeux de tous, le fait qu'il va devoir parfois se justifier alors qu'on n'a pas forcément envie de se justifier, pour que les personnes en fait comprennent que c'est comme ça et c'est pas autrement, et c'est pas parce que tu penses que j'en ai pas besoin que j'en ai pas besoin, et parce qu'en fait c'est pas facile au quotidien et qu'il faut se blinder. Là j'ai donc une très bonne amie, Lilou, qui a un chien d'assistance depuis peu, que j'ai beaucoup soutenu. Je l'ai pas mal prévenu aussi avant, en fait, de tout ce qui allait se passer, parce que forcément, ça allait pas être tout rose, tout beau, tout facile tous les jours. Et du coup, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois mon ami, donc Lilou, avec son petit Octave, qui rencontre énormément de galères, de refus d'accès et de non-respect de ses droits en tant que personne handicapée, ça me met un peu hors de moi parce que bah, c'est quelque chose qui devrait plus arriver, en fait, en 2022, mais non, en 2023. C'est vrai que même quand on est préparé, quand j'échange aujourd'hui avec elle, mais c'est pas facile alors qu'elle le savait déjà avant. Oui, je pense qu'il faut vraiment être prêt à gérer tout ça du niveau, enfin au niveau émotionnel, une fois qu'on a un chien d'assistance pour un handicap invisible, encore plus que pour un handicap qui est visible.
Voilà, c'est ce que je disais, ça met carte sur table et du coup, c'est plus qu'avec les proches et ça l'expose au grand monde, au chauffeur de bus, à la caissière, à l'agent de sécurité, parce que c'est surtout eux qui voilà. C'est surtout eux qui nous embêtent, qui ne connaissent pas la loi, mais bon, ils vont apprendre et moi je me dis que tant qu'ils comprennent quand je leur explique,
C'est le
plus important.
Exactement.
S'ils connaissent pas la loi, c'est pas grave, tant qu'ils la comprennent, ils auront appris quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment où t'as été bluffée par Tombi et qui reste un souvenir assez marquant pour toi?
Quand j'ai compris ce changement de comportement avant mes crises convulsives, je me suis dit que c'était absolument incroyable. En fait, je voulais pas y croire. Je me disais, non, mais c'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'elle les sentirait arriver avant moi? Et en fait, bon, après, j'ai compris que c'était par rapport au niveau de cortisol qui...
C'est l'odorat qui joue.
Exactement, c'est l'odorat qui joue. Et là, c'est vrai qu'une fois que j'ai compris qu'en fait, ouais, c'était pas des bêtises, que cet éducateur-là me disait, oh, c'est possible que ce soit lié aux crises, je me dis, mais en fait, c'est... Je savais déjà qu'un chien, c'était incroyable, mais alors là, j'étais... en fait, c'est vraiment incroyable, un chien, c'est... En fait, ouais, je sais même pas quoi dire, tellement ça m'a...
Oui, ça t'a bluffé.
Oui.
C'est ça. Et est-ce que grâce à sa présence en tant que chien d'assistance, tu as fait des rencontres un peu exceptionnelles que tu n'aurais pas forcément fait sans Tumbi? Sur le plan chien d'assistance, pas sur le plan élevage, mais...
Sur le plan chien d'assistance, il y en a énormément, notamment des personnes avec qui... Enfin, des personnes que j'ai connues sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, avec qui on a beaucoup échangé, avec qui on a monté une association de chiens d'assistance pour adultes autistes.
Qui s'appelle Autisséa, on peut la citer.
Exactement. Aujourd'hui, l'année dernière, j'étais vice-présidente de l'association. Aujourd'hui, j'ai plus le temps, donc je me suis juste... Je suis plus, du coup, à la direction de l'association. Mais voilà, ces personnes-là qui sont aujourd'hui des personnes avec qui, malgré le fait qu'on se voit pas forcément au quotidien...
Du coup, moi aussi, je suis membre d'Autisséa. Je mettrai les liens sur futurefriendly.fr. Mais c'est vrai que oui, donc cette association que vous avez créée, c'est une association pour remettre des chiens à des adultes autistes.
Exactement.
Donc en owner training et en éducation par les... Donc c'est les... Il y a les deux voies, qui,
les
sont
deux
possibles.
Voies qui sont possibles.
Bon, l'association est toute jeune, hein, donc oui. Il y a le premier show qui est rentré en éducation. Là, on est au tout début. Oui. Mais du coup, toi, tu fais plus partie du board, du bureau.
Non, je fais plus partie du bureau parce que j'ai plus le temps et que j'ai mes projets personnels qui me prennent... beaucoup de temps et d'énergie, déjà plus le fait d'avoir trois chats à gérer au quotidien. Mais c'est vrai que c'est un projet que je soutiens vraiment de tout cœur. Je leur souhaite tout le meilleur. C'est des personnes au bureau de l'association qui sont vraiment formidables et qui essaient vraiment de tout faire au mieux au niveau de la loi, de la
reconnaissance.
Oui, de l'association. Ben, je leur souhaite tout le meilleur. Ouais. C'est vrai que oui, on a décidé de... L'association a décidé de proposer les deux programmes en owner training et en remise de chiens adultes certifiés. Moi, mon point de vue sur l'owner training, c'est vrai que malgré le fait que j'ai fermé moi-même ma chaîne en owner training, c'est pas forcément quelque chose que je recommande parce que le taux d'échec est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevé que sur un chien qui va être en formation avec l'association et...
Est-ce que c'est pas aussi parce que quand tu es en owner training, tu as qu'un chien sous la main, parce que c'est le tien en fait, et que c'est pas forcément le plus adapté, pas en termes de race, mais en termes de caractère, alors que l'association, elle, on en parle souvent du côté des chiens guides, du côté des chiens d'assistance, c'est pareil, fait vraiment le binôme et cherche vraiment le chien qui correspond et fait vraiment un match, matching.
Absolument, c'est vrai que ça joue beaucoup, mais c'est également pour ça qu'en fait, donc chez Autisséa, on a décidé qu'on acceptait en formation en owner training uniquement des chiens qui avaient été sélectionnés par
l'association.
Les éducateurs en fait de l'association et pour essayer de baisser en fait le niveau
taux d'échec.
Le taux d'échec exactement. Mais c'est vrai que oui, l'owner training c'est pas évident. Je pense que les gens voient ça comme l'utopie du chien d'assistance qu'on forme soi-même avec lequel on développe une relation mais
et en même temps, quand tu l'éduques toi-même, tu te dis tu développes une bonne relation, tu le fais toi-même, enfin c'est un peu aussi une fierté de l'avoir fait. Et en même temps, les gens qui ont besoin d'un chien d'assistance
sont pas forcément
ne sont pas émotionnellement, psychologiquement, ça dépend pourquoi on l'éduque aussi,
exactement.
Mais costaud à la base. Et donc, il peut y avoir des écueils, et ça, moi, je sais, je suis pas là pour en juger. Mais du coup, il faut aussi avoir une certaine constance dans l'éducation et que, déjà pour les éducateurs qui sont des professionnels, ça peut être compliqué. Donc, quand on a en plus des hauts et des bas, parce qu'on a divers troubles, etc., il n'y a pas de souci. Et c'est aussi pour ça que, du côté des chiens guides, la question se pose pas si souvent que ça, parce que former soi-même un chien à guider quand on ne voit pas, je pense que les gens, c'est vrai que les gens l'assimilent, le visualisent beaucoup plus, vu que ça reste quelque chose de visible, pour le coup. Et du côté des chiens d'assistance, on dit on peut se le former, etc. Mais c'est vrai que c'est pas toujours, c'est vrai que du côté d'Acadia, qui est l'association qui remet des chiens guides pour enfants diabétiques. On en avait parlé, on a fait un épisode spécial à l'occasion de la journée mondiale du diabète. Florine, du coup, la coordinatrice, nous avait expliqué aussi qu'au début, leur idée aux parents qui sont allés chercher ce chien aux États-Unis, c'était un peu de former... ils sont pas allés chercher un chien, ils sont allés chercher des compétences pour former leur propre chien. Et en fait, ils se sont rendus compte que c'était mieux de former le chien et après de le remettre. Dernière question, est-ce que tu aurais un pire et un meilleur moment à nous confier avec Tumbi?
Pire moment. Ah oui, absolument.
Oh là.
Absolument. Je suis toujours mitigée quand je pense à cet événement-là. Mais c'est... Alors, un accident, mais avec un autre chien d'assistance qui a complètement, enfin, littéralement agressé Tumbi dans un bus. Je suis rentrée dans le bus, donc j'ai pas vu le chien parce qu'il était
bien rangé sous les pieds.
Bien rangé sous les pieds. Et en fait, au moment où je suis passée, le chien est sorti. C'était un chien guide.
Peu importe.
Mais il est sorti, il s'est jeté sur Tumbi, et c'est vrai que là, En fait, il s'est passé tellement de choses au niveau émotionnel que je sais même plus comment j'ai réagi, je sais même plus ce que j'ai dit. Mmh. Je crois que j'ai hurlé sur la pauvre dame alors que ça arrive, enfin, ça devrait pas arriver, mais ça reste
des êtres vivants,
en fait. On peut pas tout gérer, c'est peut-être moi qui ai peut-être marché sur un bout de poil qui dépassait d'une queue, peut-être. Il y a plein de trucs qu'aurait pu faire que, c'est vrai que tout d'un coup, je me dis, mais en fait, je mets mon chien en danger, alors que pas du tout. Et j'ai vu mon chien mourir parce que je suis un peu extrême dans...
un peu excessive, des fois.
Un peu excessive dans mes émotions et surtout quand ça touche à Tumbi. Mais c'est vrai que oui, voir un autre chien d'assistance ou pas, en fait, mais juste lui être sauté dessus comme ça de nulle part alors que je l'avais pas vu, ça m'a...
Ça a choqué.
Ouais, ça m'a choqué. Suite dans l'extrême, mais sinon j'ai pas forcément de mauvais souvenirs. C'est Tumbi, c'est une chaîne assez facile. Donc elle a son petit caractère à elle, qui est bien ancré. Elle est plutôt cool. Mais en meilleur souvenir, tous les moments que je passe avec ma chienne, tout ce que je vis au quotidien grâce à mes chiens et surtout grâce à Tumbi, parce que comme je disais un peu plus tôt dans notre échange, c'est pour elle principalement que j'ai commencé à voyager, et au final, même si c'est pour les trois aujourd'hui que je suis en Laponie, c'est avant tout pour Tumbi, parce que c'est Tumbi, c'est la chaîne de ma vie et que je veux lui offrir la meilleure des vies. Donc tout ce qui m'arrive aujourd'hui, c'est grâce à elle, et je pense que ça, c'est la meilleure des récompenses.
Et pour suivre tes aventures, on peut aller voir du côté d'Instagram, je crois.
Oui, pour suivre nos aventures, pour le moment en Laponie, peut-être ailleurs à l'avenir, c'est sur Instagram et c'est Firefly on the Road.
Bon, je mettrai tout ça dans les dans les détails de l'épisode, de toute façon. Et puis, nous, on va aller dîner. Mais en tout cas, merci. Est-ce que tu as un petit mot, quelque chose pour la fin que tu as oublié, que tu voudrais dire, que tu voudrais rajouter?
Mais écoute, j'aimerais te remercier d'être venue me rendre visite en Laponie. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir ici dans le Grand Nord.
La petite famille, avec le baby boy, et puis avec mon chéri. Non, c'est un plaisir en tout cas. Et puis on fait de belles balades, hein, Tumbi? Oh oui, on va y aller. Écoute, merci beaucoup. Je te dis à bientôt.
Oui, merci à toi. À bientôt.
Et voilà, c'est la fin de cet épisode spécial. Merci à vous de l'avoir écouté, en espérant qu'il vous aura plu. Merci à Ariane d'avoir accepté mon invitation et de s'être livrée tout en nous accueillant dans sa Laponie suédoise. Pour compléter votre écoute, vous pouvez retrouver des photos d'Ariane avec Tumbi, Tinky et Totoro en Laponie sur futurechienguide.fr et très bientôt la transcription intégrale de cet épisode. Et n'oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter mensuelle pour ne rien manquer. Vous retrouverez le lien dans la description de l'épisode. Alors, à bientôt pour un prochain épisode sur l'univers méconnu des Chiens Guides d'Aveugles.